Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensace.
Bonjour à vous qui avez choisi, par envie, par curiosité ou tout simplement par hasard, de m'accompagner dans les méandres de mon imaginaire. Je m'appelle Jean Vocat, j'ai été élevé aux comics de super-héros, biberonné aux blockbusters américains, à la japanime, à l'heroic fantasy, et des maîtres de l'univers à Conan le Barbare, d'Highlander à Cowboy Bebop, de la Comté du Seigneur des Anneaux au Nostromo d'Alien. Tous ces univers ont façonné mon esprit, l'ont peuplé de monstres, de héros, de guerrières intrépides et de sorciers maléfiques. Autant de personnages qui m'ont fait trembler parfois, galvaniser souvent, accompagner toujours. Laissez-moi vous emmener explorer mon paysage mental et y découvrir les histoires qui y ont germé. Bienvenue dans la cartographie des chimères. L'illustration de couverture est signée Victor Lejeune. La réalisation est assurée par Adrien Larousé qui a aussi composé la musique avec Apolline Dash. Mais avec toutefois dans cet épisode une exception puisque le morceau de fin est une composition de Julie Vatin. Et l'épisode du jour s'intitule « Entre le héron et l'araignée ». Dans la cosmogonie de la civilisation du héron, au commencement étaient les ténèbres, glacées et immobiles. Des chimères lourdes et informes s'y mouvaient avec lenteur. Un jour, une chimère rêve de lumière et son rêve s'échappe de son crâne sous la forme d'un héron lumineux. Le héron déploie ses ailes dans l'obscurité. Les chimères en sont épouvantées et elles se retirent au loin, laissant l'espace libre à l'oiseau pour y faire son nid. Et dans le nid de ténèbres, le héron pond un œuf, l'œuf tout, dont surgit le monde qui emplit le vide. Et toujours le héron vole pour tenir les ténèbres à distance, et de ses ailes déployées sur le monde, il pleut des rêves, et de ses rêves naissent les hommes. Dans la constellation de l'araignée, on dit qu'au commencement de la lumière naquirent les dieux. Beaux et tout-puissants, ils pouvaient tout, ils étaient tout. Ils créaient sans cesse merveilles et miracles. Mais les dieux étaient aussi facétieux et oisifs, et rien ne perdurait jamais de leur création, si magnifiques fussent-elles. Un jour, les dieux, lassés de leurs propres merveilles, se lancèrent pour défi de créer la créature la plus laide possible. Ainsi fut créée l'araignée hideuse. Tous la moquèrent. Honteuse, elle s'enfuit et se déroba à la vue de tous. Dissimulée dans sa caverne, elle observait de ses innombrables yeux les dieux inutiles qui gaspillaient l'énergie du tout. Dissimulée dans sa caverne, elle saisissait de ses innombrables pattes ce que les dieux inutiles abandonnaient derrière eux, cheveux coupés et rognures d'ongles. Elle les engloutissait, les digérait et dans ses entrailles en faisait sa toile. Et l'araignée a commencé à tisser. Petite toile d'abord, puis de plus en plus grande. Trames géométriques solides et belles qui dessinaient un sens dans le chaos des dieux inutiles. Son ouvrage était si beau et si équilibré que les dieux même qui s'étaient moqués d'elle lui rendirent hommage en la plaçant au centre de tout. Et elle tissa encore. Et elle tissa le monde. Et la toile était le monde. Et l'araignée inonda la toile de ses rêves et de ses rêves naquirent les hommes. Dès l'aube de leur civilisation, bien avant les voyages stellaires, bien avant les moteurs à réaction, les peuples du héron ne voulurent qu'une chose, voler. Dès leur préhistoire, avant même l'invention de la roue, les plus téméraires d'entre eux se jetèrent de falaises équipées seulement d'ailes de toile rudimentaires. Combien de pionniers périrent à la poursuite du rêve ? Qu'importe, rien ne les arrêta jamais. Le rêve était plus important. Le progrès de leur technologie alla de pair avec l'exploration de leur planète. En ballons dirigeables, ils enjambèrent les océans et prirent les montagnes de haut. Chaque destination était le point de départ de l'expédition suivante. Des expéditions coûteuses en ressources et en énergie. À la poursuite du rêve, ils laissaient derrière eux des territoires exsangues. Bientôt, leur planète ne suffit plus. Il fallut s'envoler vers les étoiles. Leurs vaisseaux, d'une ingéniosité rare, d'une beauté sans égale, s'élancèrent dans toute la galaxie. Et ce qu'ils avaient fait à leur planète, ils l'étendirent à tout leur système. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'autre choix que de s'étendre à la constellation voisine, celle de l'araignée. Très tôt dans leur histoire, les peuples de l'araignée songèrent à se protéger. Ils n'avaient qu'un rêve, la paix. Routes et aqueducs furent leurs premières inventions pour rapprocher de leur grotte tout ce dont ils avaient besoin. Puis vinrent les ponts pour enjamber les mers et soumettre les montagnes. Chaque village, chaque cité devint le centre d'un réseau de plus en plus grand, chaque ressource collectée le carburant de l'expansion à toute leur planète. La paix s'étendait, la place diminuait. Bientôt leur planète fut trop étroite. Il fallut conquérir le ciel. Ils quadrillèrent l'espace de ponts suspendus dans le vide, autoroutes stellaires imposantes et magnifiques. Et ce qu'ils avaient fait à leur planète, ils l'étendirent à tout leur système. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'autre choix que de s'étendre à la constellation voisine, celle du Héron. À mi-chemin entre la constellation du Héron et la constellation de l'araignée, se trouve une station-service spatiale. Baptisée Nulle Part, elle est accrochée à un astéroïde minuscule en orbite autour d'un mini-trou noir en formation. Le planétoïde gravite à la lisière de l'horizon des événements, en équilibre précaire entre la dérive et l'aspiration fatale. Ici, le Héron et l'araignée ne sont que les enseignes en néon du sol rade du coin. Enfin non, pas seulement. À l'intérieur du bar, on les retrouve aussi, sous la forme de deux imposants automates de métal, disposés face à face, chacun à une extrémité de la salle. Ces deux créations sont l'œuvre du patron de la station, mécanicien de génie, ferrailleur complètement fou, poète et accessoirement alcoolique notoire. Une fois par heure, les deux automates s'animent. Le Héron étend ses ailes et déplie son long cou avec une grâce étonnante pour un engin en ferraille. Tracté par un système de câbles, il s'élève jusqu'au plafond et survole la salle en direction de l'araignée mécanique qui, elle, se dresse sur ses pattes, pivote autour de l'axe du bras mécanique auquel elle est attachée et qui la hisse, elle aussi, vers le plafond qu'elle arpente en direction de l'oiseau. Au centre de la salle, à quelques 2 mètres au-dessus de la clientèle, les deux créatures se tournent autour dans un mouvement de balai, puis retournent à leurs places respectives. Bien que située à plusieurs années-lumière de tout lieu habité, la station de Nulle Part est le lieu de convergence de plusieurs routes commerciales stellaires. La clientèle est composée essentiellement de routiers intersidéraux qui font escale pour faire le plein, se restaurer, effectuer de menues réparations. Aujourd'hui pourtant, 2 clients tranchent dans la faune habituelle. Un homme et une femme, chacun d'une 40aine d'années, arrivés séparément. Lui, c'est Regmor, émissaire de la monarchie parlementaire de l'araignée. Elle, c'est Navia, ambassadrice de la République anarchique du Héron. Nulle Part a été choisie comme terrain neutre d'une rencontre pour tenter d'enrayer la mécanique du conflit inévitable entre les deux civilisations en quête d'expansion. C'est un peu la rencontre de la dernière chance, initiée dans le plus grand secret sans que les opinions publiques, déjà chauffées à blanc par les premières escarmouches, n'en soient tenues au courant. C'est pourquoi la rencontre se fait sans protocole officiel. Regmor et Navia sont là comme incognito. Elle porte une simple tenue de pilote, plus pratique qu'élégante, et elle a simplement ramené ses longs cheveux en un chignon sans fioriture où affleurent quelques cheveux blancs. Regmor porte un costume sobre qui pourrait le faire passer pour un simple représentant de commerce, si ce n'est la grande cape de coupe rétro qu'il porte par-dessus. Et puis, il n'a pas pu s'empêcher tout de même de surligner ses yeux d'un trait noir qui se prolonge jusque dans ses pattes d'oie, maquillage typique des dignitaires de sa nation. Il s'assoit à la table du centre. Spontanément, chacun s'est installé du côté de l'automate qui représente sa constellation. Chacun aussi a ramené avec lui l'ensemble de ses bagages. Les parkings de Nulle Part ne sont pas sûrs. Regmor remarque immédiatement le manche d'une litare, instrument à cordes traditionnel de la culture héronienne. « Vous êtes musicienne ?» demande Regmor. « Non, » elle répond, « non, c'est juste un passe-temps pour mes heures perdues. Le voyage était long. »« Ah, je vois, » reprend Regmor. « Vous savez, moi, la musique, c'est ma passion première. Regardez. » Il sort de son sac un petit « accordium, instrument mécanique à soufflet typique de la nation de l'araignée. Navia regarde l'instrument et sourit. Elle demande « Mais attendez, si la musique était votre passion première, comment vous vous êtes retrouvé haut fonctionnaire ?»« Fallait bien manger », répond évasivement Regmore. « Je vais être franche avec vous, » reprend Navia, « j'aime pas tellement la musique de votre nation. Pardon, hein, mais ces ritournelles répétitives, c'est d'un ennui. Ces ritournelles répétitives, comme vous dites, sont des bijoux de construction harmonique, pas comme, excusez-moi, les interminables envolées sans queue ni tête de vos morceaux traditionnels. Dites-moi, est-ce que vous prenez seulement la peine d'écrire votre musique ou est-ce que tout est toujours improvisé ?»« Ce qui compte dans notre culture, » répond Navia en souriant, « c'est la recherche perpétuelle. Ce qui compte dans la nôtre, » rétorque Regmore, « c'est la mise en ordre du chaos. » Un temps. Ils éclatent de rire. « Eh ben, elle commence bien cette négociation, » lance Navia. Ils rient de bon cœur, tous les deux. Et puis soudain, ils ne rient plus. Leurs regards se sont croisés et ils ont été saisis tous les deux d'une émotion à laquelle ils ne s'attendaient pas. C'est comme s'ils s'étaient toujours connus, comme s'ils s'étaient perdus il y a longtemps et qu'ils se retrouvaient enfin. C'est évident, c'est idiot, c'est irrévocable, c'est un coup de foudre. Il faut bien assumer pourtant la mission qui leur a été confiée. Chacun sort ses dossiers et commence à avancer les arguments de son camp. Ça discute territoire, aménagement de ressources, traité de libre-échange ou droit de passage. Ça négocie, ça ergote, ça palabre, ça ne démord pas, ça se dévore du regard, ça se tutoie tout à coup. Après plus de 6 heures de discussion, il faut se rendre à l'évidence, il n'y a pas d'accord possible entre leurs deux nations. « Bon, » dit Regmore, « il faut que je prévienne mes supérieurs. »« Moi aussi, » dit Navia. Chacun sort son communicateur et tape un message. Dans le silence qui suit, Regmore écarte les restes des 2 repas qu'ils ont pris pendant les négociations. Navia finit son eau, puis, levant son verre, elle demande « Et si on passait à quelque chose de plus fort ?» Regmore acquiesce. Je crois qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. La commande est passée. Elle est servie tandis qu'au-dessus de leur tête, l'araignée et le héron mécanique se contournent pour la 7e fois. Regmore et Navia trinquent en silence. Derrière eux, des clients un peu éméchés rient bêtement d'une autre création du patron. Un automate qui figure au-dessus d'une vasque, la parade amoureuse de 2 oiseaux de paradis. C'est Navia qui reprend la parole la première. Pars avec moi. Où ça? Je sais pas, ailleurs, partout, pars avec moi. T'en as pas l'envie? Si, bien sûr, on s'arrache de l'araignée et du héron et on sillonne l'espace, ensemble, toi et moi, pour toujours, elle ajoute, mais lui, il continue sur sa lancée, et on se trouve une planète, loin de nos 2 systèmes, où on se fera un cocon stable, une vie merveilleuse. Elle se glace. Un cocon? Oui. J'aurais l'impression d'être en prison dans un cocon. Regmore accuse le coup. Et moi, dit-il, en voyage perpétuel, je me sentirais en exil permanent. Navia retourne à la charge. Tu sais, Regmore, dans la nation du héron, nos vaisseaux, ce sont aussi nos maisons. Des havres de paix en mouvement. Pourquoi il ne voyagerait pas ton cocon? Pendant un instant, Regmore entrevoit le monde tel qu'il pourrait être. Les larmes lui montent aux yeux. Navia continue. On y sera bien, tu verras. Toi, moi et... Elle s'interrompt. Estomaquée par ce qui lui a traversé la tête, le cœur et le ventre. On ne pense pas à ces choses-là si tôt. J'ai déjà 2 enfants, dit simplement Regmore. Navia comprend tout de suite pourquoi il lui dit ça, pas pour lui dire que ça l'empêcherait de partir avec elle, non. À son âge, ses enfants sont probablement adultes. S'il lui dit ça, c'est parce que il est de notoriété publique que dans la nation de l'araignée, Une stricte politique de natalité oblige hommes et femmes à se faire opérer après leur deuxième enfant. Regmore ne s'est jamais senti aussi vieux. À cet instant précis, leurs communicateurs respectifs bipent. Chacun lit le message qu'il a reçu, en prend acte et relève la tête vers l'autre. La guerre, donc, murmure Regmore. Oui, elle lâche dans un souffle. Aucun ne parvient plus à articuler un mot jusqu'à ce que, finalement, Navia murmure. Il est si tôt pour un trop tard. Il n'y a plus rien à dire, alors il se taise. Machinalement, Regmore se saisit de son accordium qu'il avait posé au sol. Il entame une ritournelle de sa planète natale. Navia l'écoute un moment, puis elle attrape sa litare par le manche et commence à improviser sur le rythme de Regmore. Les deux instruments se marient si bien. Regmore et Navia font de la musique. Les yeux dans les yeux entre le héron et l'araignée, ils échappent au poids du monde et du temps. Ils mêlent leur rythme et leur mélodie. Et ils tissent un monde nouveau avec leurs notes. Et leurs notes sont le monde, et ils y déploient leurs ailes. Et il en pleut des rêves.
Transmission.